Alors, c'était le rappeur sénégalais Didier Awardi qui se demandait, qui ne comprenait pas pourquoi on n'appliquait pas la taxe Tobin. Il ne comprenait pas pourquoi les gens étaient pauvres et pourquoi l'Afrique était aussi divisée. Et en tout cas, à Dakar, du 6 au 11 février dernier, il n'était pas le seul à pas comprendre tout ça, puisqu'il y avait, je crois, près de 60 000 personnes qui ont participé au Forum social mondial. Alors, les forums sociaux mondiaux, c'est depuis 2001, c'est une grande rencontre de tous les altermondialistes. Et c'était la deuxième fois en Afrique. Et cette année, ça correspondait à la fois à la crise économique et en tout cas le fait que les politiques libérales en général aient montré leurs échecs et leurs limites, et aussi au réveil du monde arabe et aux révolutions qui ne sont pas forcément des révolutions comme Sophie Pommier nous parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, il y avait ces mouvements-là. Et je crois d'ailleurs que cette année, il y avait énormément de gens qui venaient d'Afrique au Forum social mondial. Et alors, nous avons autour des micros Céline. Alors, Céline, bonsoir.
Bonsoir.
Toi, tu y étais avec, au départ, les petits débrouillards, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, moi, j'y étais dans le cadre d'un stage parce que je suis étudiante en journalisme. Et c'est par l'intermédiaire, oui, donc des petits débrouillards que j'y suis allée.
Parce que avant le Forum social mondial, il y avait le Forum social des sciences et...
Sciences et démocratie.
Exactement.
Exactement.
Et puis nous avons aussi autour des micros Gilda, bonsoir.
Bonsoir.
Alors toi, tu y allais avec l'association pour laquelle tu travailles. Est-ce que tu pourrais nous présenter cette association?
Donc l'association s'appelle l'ETEC, ça veut dire Association internationale des techniciens, experts et chercheurs. On travaille sur le financement du développement, sur les politiques commerciales de l'Union européenne, sur le droit à la ville, le droit au logement. Et on essaye d'apporter une approche un peu critique, mais qu'on appellera plus d'expertise citoyenne, ça veut dire vraiment ancrée dans la réalité des luttes, des mouvements sociaux, mais avec une approche scientifique quand même derrière.
Et c'était la première fois que tu allais à un forum social mondial?
C'était mon premier forum social mondial, mon troisième forum social en tout. Et bon, c'est vrai que la dimension mondiale, ça change tout. Parce qu'il y a énormément de monde, tous les continents sont représentés. Là, le fait que ce soit en Afrique, comme tu disais, il y avait aussi beaucoup d'Africains, une grosse, grosse présence sénégalaise, mais pas seulement. Et c'était vraiment impressionnant.
Et alors toi, Céline, qu'as-tu fait au départ quand t'es arrivée au Forum social?
Moi, c'est-à-dire qu'en fait, je devais écrire des articles pour le blog de Politis. Mon travail... c'était essentiellement des interviews de personnes qui travaillent dans des associations, des économistes qui participaient finalement à tout un tas de tables rondes et donc essayer de dynamiser leurs projets, notamment par l'écriture d'articles que je devais publier assez rapidement sur le blog de Politis. Et c'était très intéressant. C'était mon premier forum social mondial. Bon, après, on pourrait voir le forum sur ces démocraties qui, en fait, avait lieu avant le forum social mondial. C'est-à-dire qu'en fait, le forum social mondial, c'était pas juste du 6 au 11 février. Ça a commencé déjà dès le 1er avec la charte mondiale des migrants qui se déroulait à Gorée. Puis le forum sciences et démocratie qui a duré 2 jours du 4 au 5 février. Puis le forum social mondial. Et en fait, il faut voir que c'est tout un foisonnement parce que effectivement, c'était à Dakar, mais juste avant, il y avait tout un tas de festivals sur les arts nègres. Et après le forum social mondial, il y a tout un tas de conférences qui ont lieu au Mali juste après le forum. Donc c'est toute une vie qui s'organise et qui essaye de finalement changer les choses.
Et alors toi, quelles ont été tes impressions au premier abord?
Non, c'est vrai que c'est une grosse nébuleuse. C'est donc pas seulement le Forum social mondial, il y a d'autres choses. En plus, là, il y avait un forum social étendu. Donc il y avait aussi des événements qui se passaient un peu partout dans le monde et beaucoup en France aussi. Il y avait des caravanes qui sont parties. Il y en a notamment une avec ATTAC, le CADTM et Novox, qui est parti du Mali, je crois, et qui a fait 6000 km à travers l'Afrique et a rejoint le Sénégal. Donc, ouais, c'était plein de grands moments comme ça. Après, La première chose que j'ai fait en arrivant au forum, c'est essayer de me repérer déjà dans l'université.
Et, parce que je crois que c'était assez compliqué d'un point de vue technique, parce qu'il y avait une grève à l'université.
Alors, il y a plein d'explications. C'est, je pense, moi, mon analyse, elle est politique.
D'accord. Mais, et alors, donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton point de vue politique sur...
Le recteur de l'université de Dakar a sauté 2 semaines avant le forum. Le secrétariat d'organisation avait un accord avec ce recteur-là qui, du coup, ne satisfaisait pas le nouveau recteur. Et l'accord qui a été passé avec le nouveau recteur concernait 40 salles sur les 170 salles et salles de cours ou amphithéâtres qui devait accueillir le forum social. En plus de ça, on tombait normalement dans une période de vacances universitaires. Le nouveau recteur a dit qu'il y avait une grève au début de l'année universitaire, donc les cours allaient être rattrapés justement pendant ces 2 semaines de vacances. Donc on s'est retrouvé sur une fac qui était occupée par des étudiants, qui, ça c'est un autre problème, n'étaient pas forcément au courant de ce qu'était un forum social et de ce qu'on venait faire. Donc ça faisait un peu une sorte de colonisation culturelle qui se ramenait sur l'université. Donc voilà, après, ça pose des questions, mais je pense que la question, elle est plus fondamentale. C'est comment ça se fait que cet accord qui avait été passé avec l'ancien recteur n'a pas été respecté ou voulu par le nouveau recteur. Et donc, le premier jour du forum a été complètement annulé, ou au moins la première grosse matinée, à cause de ça. Parce que à la place des salles, il a fallu monter des tentes. Il a fallu... le fait de ne pas avoir de salles ne permettait pas qu'on imprime le programme. Donc, se retrouver et tout. Mais après, voilà, ça a duré une demi-journée. C'était un chaos monstrueux. Mais c'est là que je pense... une sorte de magie du forum s'est mise en place où l'auto-organisation a pris un peu le dessus, qu'au final, on a réussi à voir ce qu'on avait envie de voir. Moi, je parle pour moi, mais moi, j'ai réussi à voir ce que j'avais envie de voir. Ça ne facilitait pas forcément l'échange international, puisque voilà, quand on est
C'est plus facile de discuter avec des gens de sa même langue, quand on est un peu paumé.
Quand une salle se décidait une demi-heure avant un séminaire, on prévenait ceux qu'on pouvait prévenir. Mais ceux qu'on ne connaissait pas et dont on ne savait pas qu'ils auraient pu être intéressés, on ne pouvait pas les prévenir.
Ce qu'il faut dire, c'est que le Forum social mondial, c'est des centaines de conférences sur des sujets très vastes. Parce que...
c'est ça qui est impressionnant, c'est que le premier Forum social mondial en 2001, il a été créé en réaction au Forum économique mondial à Davos. Donc il y avait un axe, c'était l'économie. Et comment... essayer de créer des alternatives au modèle économique dominant, au néolibéralisme. Et maintenant, on se retrouve avec 12 axes thématiques qui vont plus seulement de l'économie et de la lutte contre le néolibéralisme, mais le racisme, la santé, le droit des peuples indigènes, les luttes syndicales, les droits humains, l'accès à l'eau... l'accès à l'alimentation, l'accès à l'énergie. Donc voilà, c'est plein de thèmes. Et là, cette année, un 12e thème, parce qu'il y en avait 11, qui est plus spécifique sur la crise de civilisation, mais on pourra en parler un peu plus tard.
Et alors toi, Céline, comment tu t'es démerdée dans cette espèce de fouillis
Moi, c'était quand même mon premier forum social. En plus, c'est vrai que l'université de Cheikh Anta Diop est une université très, très grande, puisque en plus, elle regroupe bon nombre d'étudiants venant des pays d'Afrique occidentale autour. C'est une université qui se veut comme un pôle d'excellence. Et effectivement, au début, c'était assez chaotique. Mais oui, la solidarité a pris le dessus et on a affiché tout un tas de panneaux avec les salles et les lieux. Il y avait des bénévoles étudiants qui avaient des t-shirts et qui étaient les volontaires et qui se proposaient d'aider tous les individus qui cherchaient leur salle. Et puis, de toute façon, oui, il y avait des tentes qui étaient prévues à cet effet et qui avaient été d'ailleurs construites aussi à l'avant. d'avance dans certains des cas et qui ont permis de pallier au manque de salles et de la supercherie du recteur de l'université. Mais moi, je trouve aussi que le fait qu'il y ait eu ces examens à ce moment-là et beaucoup d'étudiants dans l'université, ça a permis aussi aux étudiants de participer au Forum Social Mondial. Moi, j'étais dans des salles où j'ai pu échanger très facilement avec bon nombre d'étudiants qui n'étaient absolument pas au courant de la tenue de ce Forum Social Mondial et qui sont venus, qui ont participé, qui ont échangé et qui finalement voient peut-être la politique aussi sous un autre jour et qui se sont intégrés au processus. Ça, évidemment, oui.
Alors toi, Manuel, qui vient d'arriver sur le plateau, tu as participé à de nombreux forums sociaux, à de nombreux contre-sommets, je t'ai déjà croisé plusieurs fois.
Oui, on a pris des trains et des bus ensemble pour aller à des forums sociaux européens jusqu'ici. Et donc moi, c'était aussi mon premier forum social mondial à Dakar.
Et est-ce que tu as vu une différence par rapport, disons, aux années des années 2000. Est-ce qu'il y avait toujours la même énergie ou...
Ben forcément, comme ça fait 10 ans, il y a un côté routine qui s'installe qui est inévitable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le côté nouveauté où il y avait cette excitation dans les premières années, même dans la presse, dans les commentateurs, par rapport à ce mouvement qui émergeait, dont on se demandait ce que ça allait devenir. Et donc là, aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'inattendu. On sait à quoi ressemble un forum social. On sait que ça n'a pas de résultat d'aboutissement concret immédiat et que ce n'est pas le but. Donc les gens, on va dire, ont peut-être moins d'illusions à ce propos, mais ils savent mieux ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher des échanges, des contacts, à nouer des réseaux. Et là, la fonction du FSM marche toujours aussi bien comme il y a 10 ans.
Et puis, ils viennent nouer des réseaux, mais on a vu aussi Martine Aubry, on a vu quand même toute la gauche française se déplacer. Et qu'est-ce qu'on en a pensé là-bas ?
Là-bas, ce qui est un peu gênant, c'était plutôt l'attitude des journalistes plutôt que les délégations des partis politiques. C'est-à-dire que le forum était assez peu couvert par la presse française, puis je crois la presse internationale de manière générale. En revanche, quand Martine Aubry est arrivée, elle avait emmené, je crois, 20 journalistes dans son avion. Donc il y avait l'espoir que ça allait permettre une couverture du forum social un peu plus large. Et en fait, toutes les questions autour de sa venue ont tourné autour de la phrase de DSK ou de Anne Sinclair disant que peut-être il allait se présenter. Et donc il y avait vraiment un côté l'absurdité totale, quoi. Déjà en France, ce genre de questions récurrentes, c'est un peu ridicule, mais là à Dakar, c'était vraiment la caricature du journalisme français qui se complaît dans ces petits jeux d'appareils. Donc oui, là c'était assez décevant. Ouais.
Oui, puis surtout, les forums sociaux mondiaux, l'avantage, c'est justement d'être ouvert sur le monde et de ne pas voir la politique par le petit bout de la lorgnette politicienne.
Ben là, comme c'était Dakar aussi, il y avait un côté parfois un peu franco-français, parce que les délégations françaises étaient, j'ai l'impression, les plus nombreuses. Et donc, il y avait des débats où, de fait, les gens se retrouvaient beaucoup entre Français. Le français était la langue, je crois, la plus utilisée, avec l'anglais, mais assez largement quand même devant. Et donc, on a assisté à des débats sur les sans-papiers, des choses comme ça, où il n'y avait quasiment que des organisations françaises, où il y avait les syndicats, la CFDT qui débattaient avec la CGT et qui reprochaient à Sud ceci, cela réciproquement. Donc il y a un côté un peu vase clos, un peu étonnant pour un forum social mondial.
Et j'ai entendu dire qu'il y avait que la société civile africaine avait été très mobilisée sur ce forum. Est-ce que vous vous êtes rendu compte ? Est-ce que vous avez...
Oui, on l'a vu. C'était quand même largement présent. Je sais pas, moi, je peux parler un peu de ce que j'ai vu du côté des attaques d'Afrique. On voit qu'il y a une explosion du nombre d'attaques d'Afrique. Il y a Attaque Tunisie, je crois, qui s'est créée à l'occasion du Forum Social Mondial. Voilà, il y a énormément de choses. Il y a Attaque Togo qui existe et qui fonctionne. Il y en avait d'autres. Attaque Sénégal aussi s'est créée à l'occasion du Forum Social Mondial de Dakar et a déjà 50 militants, 60 militants, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, oui. Après, sur le deuxième aspect que j'ai vu, donc c'est via Novox, donc avec la caravane. Donc là, ils avaient vraiment fait un travail en amont. Puis Novox, c'est un réseau qui est bien implanté en Afrique. Donc ils avaient fait venir beaucoup de monde en bus à Dakar et qu'ils avaient récupéré sur le chemin et tout ça. Et des gens voilà, qui sont là pour présenter leurs problèmes quotidiens et essayer d'avoir un éclairage un peu sur... La situ- ou mettre en regard leurs problèmes quotidiens avec des luttes qui sont peut-être plus globales, comme celle qui est exposée au FSM.
Et alors, je crois que toi, tu as tenté de participer à une action qui a été assez compliquée, puisqu'en fait, évidemment, le Forum social mondial, c'est des débats, c'est des réunions, c'est des dîners collectifs, c'est des soirées à refaire le monde, mais il y a aussi des actions. Alors, il y a les manifs.
Oui, plusieurs manifs, d'ailleurs. Moi, j'ai assisté... déjà, il y a la première manifestation d'ouverture du Forum, qui était plutôt un succès. Enfin, c'était une représentation, finalement, des diverses associations ou organisations qui participaient à ce forum-là.
Est-ce qu'il y avait des gens aussi de la ville de Dakar qui ont participé avec vous, qui vous ont suivi ?
Oui, en partie, oui. Enfin, surtout, les gens, ils voyaient tout ce cortège qui se déplaçait du centre de la télé-radio-diffusion sénégalaise jusqu'à l'université. On suivit aussi en partie le mouvement, oui, bien sûr. Mais après, j'ai assisté à une seconde manifestation, c'était la manifestation des étudiants, parce que pendant ce Forum social mondial, ça fait trois ou quatre mois qu'il y a une centaine d'étudiants ou un peu plus qui manifestent quasiment tous les jours pour réclamer leur entrée à l'université, parce qu'ils ont eu leur baccalauréat et malheureusement... Le recteur de l'université ne leur a pas accordé une place à l'université, alors qu'ils ont leur baccalauréat. Donc c'est assez hallucinant. Et donc ils se sont fait fort de montrer leur présence pendant le Forum social mondial en espérant que la situation pourrait se régler, en expliquant bien sûr que c'est pas parce que le recteur annonce qu'il y a un manque de postes dans l'université que c'est vrai, parce que pendant ce temps-là, il y a d'autres étudiants qui viennent d'autres pays qui, eux, accèdent à l'université directement pendant l'année. Donc ils mettent en avant le fait qu'il y ait de la corruption, qu'on laisse entrer certains étudiants mais pas d'autres, sous couvert d'excellence. Et donc il y en a qui seraient lésés, donc ils ont essayé de faire une action de ce type pendant le Forum social mondial. Après, pour ma part, oui, j'ai assisté à une autre manifestation qui s'est mal passée. Parce que effectivement, on est un Forum social mondial et on essaye de changer les choses. Alors pourquoi ne pas aussi le faire dans le contexte social et le contexte social de Dakar et avec un certain nombre d'inconnus, d'anonymes du Forum social mondial, ainsi que des Novox et des militants du DAL. Nous avons fait une manifestation en direction de la prison Rebeus de Dakar pour défendre de meilleures conditions de vie et de détention en prison, parce que cette prison, elle est très connue pour finalement le fait qu'il y ait énormément de prisonniers qui soient enfermés dans des conditions lamentables, avec des atrocités bien connues de tous, et qui sont impunies par ceux qui gèrent la prison. Et donc on est allé devant la prison pour manifester. Bon, il s'est avéré qu'en fait, on a été plutôt mal accueillis par la population locale, parce qu'en fait, il y avait une moitié des manifestants qui étaient européens, l'autre moitié était malienne, et donc il y avait très très peu de Sénégalais, donc peu de gens qui parlaient le Wolof, et on était dans un quartier vraisemblablement très pauvre et qui parlait beaucoup le Wolof. Donc on a eu très peu de rapports avec la population locale, et en fait finalement on est resté que 3 minutes devant la prison. Parce que au bout de 3 minutes, les militaires sont sortis de la prison et on matraquait les manifestants. C'était d'une violence extrême. Donc tous les manifestants qui se trouvaient devant, eh ben, ils étaient par terre et ils continuaient de les frapper par terre. Donc on a eu un mouvement de recul assez rapidement. On s'est tous mis à courir et finalement, ils nous ont tous attrapés. Quoi. Enfin, ouais. Ils nous ont attrapés, ils nous ont pourchassés. Pourchassés. Et quand je dis pourchassés, c'est le terme.
Et, en même temps, ça aurait pu arriver en Allemagne lors des, oui, lors oui. des G8 ou...
Oui, oui, exactement.
Ou,
oui.
En,
c'est vrai.
Ou au Canada. Hein, ils ont poursuivi les gens d'une façon...
Oui, mais on voit le fait que le Forum social mondial se tienne au Sénégal et on voudrait dire oui, c'est bien, ça va faire progresser la démocratie. Et d'un autre côté, on manifeste, on se fait taper dessus, on se fait embarquer. On a séparé les Européens des Maliens et quand on nous a emmenés dans l'annexe de la prison, qu'on a pu récupérer nos collègues maliens, ils étaient dans un état lamentable parce qu'ils avaient subi en plus des violences après leur arrestation. Donc, tout ça, c'est un climat général de répression. La répression sénégalaise, elle est aussi très importante. Et je pense que le fait que le Forum social mondial y se tienne aussi au Sénégal, c'est aussi pour lutter contre ce genre de problème. Et la répression en est un.
Notamment. Au final, quand même, tout le monde a été libéré et il n'y a pas eu de conséquences pour les Maliens qui ont manifesté avec vous ?
Non, tout le monde a été libéré, on a été très très solidaires, il n'y avait personne n'a dénoncé personne et on a attendu que tout le monde sorte, bien sûr.
Les amis, donc nous-mêmes tous ici nous avons connu les difficultés, non ? Donc nous-mêmes ici nous voulons que les choses deviennent mieux, non ?
Il n'y a qu'à penser, 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 il n'y a qu'à penser,
à Bruo.
Il n'y a qu'à penser,
à Bruo.
You my friends.
Yeah.
Sometimes we have some worries.
Yes.
But you know, now it's time for change.
Yeah.
And the only thing we got to do is we got to think positive.
Hey!
Toujours sur Fréquence Paris Plurilaine et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors ce soir, nous discutons du Forum Social Mondial puisque nous avons autour des micros en plateau Céline qui y était, Manu et Gilda. Et alors une des spécificités de ce forum, c'est qu'il avait lieu en Afrique, au Sénégal. Alors on se souvient tous des forums de Porto Alegre où c'était dans à Porto Alegre où effectivement le pouvoir local était en faveur, hautement en faveur grâce au PT de ce forum social, où autour il y avait tout un mouvement populaire de militants, de syndicats qui poussaient ce forum social. Mais qu'en était-il au Sénégal ? Je sens que c'est différent.
C'était assez différent au Sénégal parce qu'effectivement, il n'y a pas un mouvement altermondialiste au sens propre qui serait à l'origine du Forum social mondial. Il n'y a pas non plus un chef d'État qui essaie d'en tirer profit, comme on a pu le voir à Caracas ou à Porto Alegre, évidemment, ou à Belém. Et donc, l'accueil était un peu difficile. Vous avez déjà parlé de l'accueil du recteur qui était assez froid. Et puis Abdoulaye Wade, donc le président sénégalais, a essayé de quand même un peu récupérer, tirer la couverture à lui, mais il l'a fait de manière tellement hostile en fait à l'égard du forum que ça s'est pas très bien passé, parce que il a reçu Lula, donc l'ex-président brésilien, qui est venu, qui lui était un peu en terrain conquis, même si les rapports entre le forum social et Lula ont parfois été un peu compliqués. Malgré tout, il reste une sorte de figure politique émanant du mouvement altermondialiste. Et donc Lula a fait son bilan de ses deux mandats à la tête du Brésil, et il a pu présenter un bilan plutôt favorable, même d'un point de vue social. Et puis à côté de ça, Wade a été vexé, et il y a eu une sorte d'esclandre diplomatique entre les deux, parce que Wade a dit que le forum social, depuis 10 ans, en fait, avait rien apporté, alors que lui, président du Sénégal depuis 2000, avait sorti le Sénégal de la pauvreté, avait un bilan extraordinaire, et que grâce à lui, le pays était autosuffisant d'un point de vue alimentaire, ce qui est évidemment totalement faux. Et donc ça, il a été assez ridicule aux yeux de toute la population, d'autant plus que la plupart des gens, des Sénégalais en tout cas, qui étaient présents au forum, avaient des revendications anti-WAD assez fortes, hein, parce que c'est un président qui est devenu très impopulaire, même s'il a été réélu pour un second mandat. C'est quelqu'un qui s'est mis à dos la plupart de la population, parce qu'il a mis en place un système de corruption vraiment... éhonté via son fils, via des pourcentages qui sont pris sur tous les contrats passés avec les grandes sociétés. Et puis c'est quelqu'un qui restreint beaucoup la liberté d'expression, qui convoque régulièrement les journalistes devant la justice. Enfin, voilà, c'est pas du tout un ami du mouvement altermondialiste. Alors il a dit « Moi, je suis un libéral, donc je suis pour que vous puissiez vous exprimer, c'est pour ça que je vous accueille. Mais dans le fond, je suis opposé à vos idées. » Donc évidemment, le clash a été assez rapide. Et puis il y avait beaucoup de mouvements sociaux qui étaient là et qui portaient une opposition sur des combats très d'actualité, comme le combat contre les délestages, parce que le Sénégal est en proie à des problèmes d'alimentation électrique assez fréquent, et donc il y a des quartiers entiers qui sont plongés dans l'obscurité. Alors bon, il fait jour, mais parfois pendant des journées entières, il y a des quartiers qui n'ont pas d'électricité. Donc,
en même temps, c'est embêtant de ne pas avoir d'électricité rien que pour son frigo, dans un pays où il fait chaud, quoi.
Oui, non, ça pose vraiment d'énormes problèmes socio-économiques à tout le monde. Il y a aussi le problème des inondations. Dakar était en proie à des inondations assez fortes, et ils n'arrivent pas à écluser l'eau depuis très longtemps. Donc il y a des quartiers entiers qui sont vraiment abandonnés, où il n'y a même plus d'école primaire, et c'est des ONG qui doivent prendre le relais, ou moi j'ai rencontré des écoles qui étaient assurées par les parents d'élèves. Donc oui, Ouad, il est vraiment pas populaire. Et alors celui qui est encore moins populaire, c'est son fils Karim, qui l'essaie en vain de mettre en selle depuis quelques temps. Et en fait, il s'aperçoit, en plus avec la succession des révolutions dans le monde arabe, que là, ça va être vraiment très difficile de passer le pouvoir directement à son fils.
Et en fait, son fils a un très mauvais rôle parce qu'il est ministre de l'énergie. Donc avec tous les délestages électriques, je pense que c'est vraiment une très très mauvaise mise en orbite de son fils s'il a envie de le faire.
C'est un peu le cadeau empoisonné comme poste. Ouais. Mais justement, tu parlais des manifestations qu'il y avait en Tunisie et surtout en Égypte à ce moment-là. Comment les gens du forum réagissaient face à ce qui se passait? Parce que j'imagine qu'il devait y avoir des délégations égyptiennes ou tunisiennes.
Il y avait une petite délégation égyptienne, effectivement, qui était très, très motivée, forcément. Et puis surtout, c'est que Moubarak est tombé le dernier jour du forum. Donc ça a été un grand moment de joie pour tout le monde. Et puis les Égyptiens faisaient des manifestations à l'intérieur du forum pour attirer l'attention sur leur agenda. Et bon, même si c'est vrai que dans le forum social, les ateliers sont prévus de longue date auparavant. Donc c'était pas évident dans le programme officiel d'intégrer cette actualité à laquelle pourtant tout le monde pensait. Donc au final, ça s'est fait un peu plutôt dans les allées que dans les ateliers officiels, même si tout le monde en a parlé.
Et là, c'était vraiment un point extrêmement fort de ce forum, je pense, un lien étroit entre mouvement social et changement politique. Il y avait vraiment quelque chose qui était en marche, en fait, pour contredire Ouad. C'est que là, tu sentais vraiment que l'altermondialisation, c'était un truc qui était possible.
Oui, et surtout que les revendications qu'on entendait dans la rue en Tunisie et en Égypte étaient des revendications très proches des altermondialistes.
Oui, plutôt sociales, ouais.
Mais en même temps, c'est un point de vue peut-être personnel, mais j'ai l'impression que le thème de renverser les dictatures dans chaque pays n'est pas un thème qui a été mis en avant par le mouvement altermondialiste depuis 10 ans. On s'est plutôt axé sur des revendications transnationales contre le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, la taxation des transactions financières, la dette, etc. Mais personnellement, j'ai rarement entendu des critiques très... il y a des critiques, mais c'est pas les thèmes prioritaires. Donc finalement, j'ai l'impression que les révolutions en Tunisie, en Égypte et ailleurs, évidemment, sont accueillies avec une grande bienveillance, mais on peut pas dire que ce soit le mouvement alter qui les ait poussées. Alors peut-être indirectement, il y a des mouvements qui sont créés en lien avec le mouvement altermondialiste. Mais, bon.
Mais en fait, je pense que l'objectif... Alors, très bien, si le mouvement tunisien a réussi à renverser la dictature tunisienne, je suis le premier content. Mais à l'origine, c'était plus une révolte contre l'augmentation des prix des matières premières agricoles, l'augmentation du coût de la vie. Et tout ça avait une explication peut-être aussi à avoir, peut-être dans des thèmes qui sont plus proches du mouvement altermondialiste, si la lutte contre les dictatures le sont indirectement.
Oui, parce que évidemment, là, ces dernières années, on a vu la crise économique mondiale qui fait que les altermondialistes avaient vu juste quand même sur le système, en partie en tout cas, sur les méfaits du capitalisme.
Oui, complètement, ils avaient vu juste. Et c'est vrai que les manifestations sur les questions sociales ont été le déclencheur de ces révolutions, mais on voit bien que le fond de l'affaire, c'est pas ça. Enfin, le fond de l'affaire des Tunisiens dans la rue, c'était pas on veut payer le pain, etc., moins cher. C'était peut-être le déclencheur. Mais enfin, ce qui pousse les gens à risquer leur vie en Égypte, en Libye et en Tunisie, c'est pas pour payer l'essence ou le pain moins cher, c'est pour la liberté. Et l'agenda démocratique n'était pas une priorité du mouvement altermondialiste. Et je pense qu'on accueille, mais tous, d'ailleurs, on accueille ces révolutions avec beaucoup de surprises. Et par exemple, en Libye, je ne suis pas sûr que Attaque Libye, si elle existait, ait beaucoup contribué au mouvement. Donc oui, c'est l'actualité internationale qui surprend tout le monde.
Et est-ce que, par exemple, il y avait des militants libyens?
Je n'en ai pas vu.
Là, c'est un peu la colle. Mais alors, comme on parle de démocratie, on parle de manifestation, j'imagine que c'est aussi... Là, dans ces genres de forums, on peut rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer. Est-ce que vous avez fait des rencontres étonnantes dans ce forum? Je ne sais pas...
Des rencontres étudiants qui nous racontent un petit peu aussi comment ils arrivent à gagner des acquis, certains acquis sociaux. On est souvent étonné des violences qui sont utilisées, le fait qu'ils séquestrent souvent leurs enseignants, ou que dans les entreprises, il y en a qui séquestrent leur patron pour avoir des augmentations de salaire.
C'est une bonne solution, tu sais. Hein. Ça peut marcher des fois.
Mais bien sûr, ça marche aussi parce qu'en face aussi, la répression est tellement forte que peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution pour avoir un salaire meilleur. Et puis quand on sait le niveau de vie des Sénégalais avec un chômage qui avoisinerait les 40%, on peut comprendre aussi ce type de fonctionnement et de manière de revendiquer.
Moi, j'ai rencontré des gens que je connaissais juste dans les journaux. Pas des gens très connus, mais par exemple, j'ai fait une rencontre qui m'a pas mal marqué. C'est quelqu'un qui s'appelle Brice Makosso, qui est un militant congolais qui a fait de la prison il y a 3-4 ans au Congo-Brazzaville, parce qu'il est coordinateur de la coalition Publiez ce que vous payez. Et donc, il s'intéresse aux revenus du pétrole au Congo-Brazzaville, qui est la principale ressource du pays. Donc, son nom a été cité dans la presse à quelques reprises, puis dans les mouvements militants, mais enfin, c'est pas du tout une vedette du mouvement, hein. Et le fait de le voir en vrai, de pouvoir discuter avec lui, et tout ça, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est ça l'apport des mouvements, des forums sociaux, c'est que ça permet à des gens de se rencontrer, alors que bon, peut-être, ouais, effectivement, il vient à Paris de temps en temps, mais le fait est qu'on le croise de manière plus simple dans les allées d'un forum. Et puis, comme il vient après à Paris le 28, là, il y a une conférence au Secours catholique, d'ailleurs, sur la transparence dans l'industrie extractive, ben c'est l'occasion de nouer des relations comme ça qui vont se poursuivre après, parce qu'il aimerait bien, par exemple, écrire un livre sur ça fait 10 ans qu'il lutte là-dessus avec son réseau, donc il cherchait quelqu'un pour en parler. Voilà, ça peut être une traduction concrète purement individuelle. C'est pas y a pas un appel qui est sorti de notre rencontre, mais des rencontres comme ça, il y en a eu des milliers pendant cette semaine-là, et peut-être qu'il y aura des centaines d'initiatives, de partenariats qui vont se nouer. L'air de rien, quoi.
Non, pas forcément de rencontres inédites, mais plutôt l'impression quelquefois de jouer le multitâche porteur de haut, couleur d'affiche pour prévenir, réparer une tente, récupérer des chaises ou essayer de les voler au Parti Socialiste, au Martine Aubry. Et voilà, c'est plutôt ça qui est rigolo. C'est pas... on sait quand on va à un forum social qu'on n'y va pas pour intervenir et que tout sera rodé. Donc on y va en disant, voilà, il va falloir gérer des aléas, et c'est ça aussi qui fait tout l'aspect sympathique du forum.
Dans une ville appelée Kabak, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur pack-sack pacifiquement sur l'année canard, en route au nord du Canada. Canada, Canada, Canada. Samy à nos colocats, s'il était temps que l'union se fasse, qu'on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un point entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser parler la nature, la barrière entre les peuples, on veut plus la casser, on en a plus cassé, on est placé pour parler. On remonte le temps dans le pantalon de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y habitent. On était pacifiques, et encore même aujourd'hui, un homme blanc sur l'Atlantique qui rêvait de faire son pays. On fume le calumet de paix sans rancune, on est capable de rester vrai même si on porte plus de plumes. L'union de nations freine l'ignorance, pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance. Mon histoire et la tienne, ça fait deux. Je fais partie de deux peuples, donc je finirai comme l'un d'eux.
Hashtag l'os à l'inconnu, on débarquera parce que cette année on a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Papa with you will be my AG, Mashka with Yak,
Mashka with Yak,
Yao Yago Yak,
Yao Yago Yak,
Yao Yago Yak.
De l'Europe à l'Amérique, j'ai traversé l'Atlantique. À cette époque épique, au pays du porc-épic, la maladie du scorbut, score est droit au but. Et c'est aux Premières Nations que je dois ma guérison. Raquette, canot, boucan, tisane et tobagan. L'authentique autochtone enseigne aux profanes la la science de la savane, sans se soucier qu'en filigrane, la soutane mégalomane allait lui casser le crâne. Pour les Amérindiens en Amérique, il y a deux choix. Soit on les abat, comme aux États, ou bien soit qu'on les réserve comme au Canada. Mais réserve ou abat, le problème demeure le même, car tombent une à une les quilles de leurs emblèmes. Ha, les visages pâles peuvent bien devenir blêmes. Désolé pour le passé, à présent qu'est-ce qu'on fait?
Allume le calume, mec, on fume pour la grande paix.
Hoche-la-gosse à la connerie, on débarquera parce que cette année on a décidé de se mixer, parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Hoche-la-gosse à la connerie, on débarquera parce que cette année on a décidé de se mixer, parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Papa, oui, 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 oui. Ishi mashka uziak,
mashka uziak.
Yau yago uziak,
yau yago uziak.
Tu viens d'un gosiak.
Stop et l'ensemble c'est le pacte. J'm'excuse si j't'existe, tu meurs pas. Ou si oui, ta mort est exquise. Pas d'accent, de plume pas. On te préserve dans l'alcool, on te fume dans le tabac. J'appelle ça de la taxidermie.
La quoi?
Parle-en à René Dupuis-Morancy. Chris, l'ignorance crasse me laisse un goût rancy. Vite, faut que j'me rince sous les chutes Montmorency. Oui, maman, oui, je me souviens que nous fûmes les premiers touristes dans ce pays qui paye à sa survie, à rendre ses esprits qui ont le souffle court. Et nous, les cœurs, c'est pris, trop pris, tellement pris qu'ils sont farma pris. Ah ah, le karma crie, Algonquin, Inou, Atikamek du Québec. Si on allumait le calumet, qu'on fumait pour la grande paix.
Hoche-la-gosse à la connerie, on débarquera parce que cette année on a décidé de se métisser, parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Hoche-la-gosse à la connerie, on débarquera parce que cette année on a décidé de se métisser, parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Papa, oui, tu es le pays, ici, Mashka Ouziak,
Mashka Ouziak.
Yau, yago,
yago, yago, yago, yago, yago, yago,
yago. Papa, oui, tu es le pays-bas, et ici, Mashka Ouziak. Yau, yago, yago, et tu es ta gosiak.
Non, mais l'ensemble, c'est le pacte.
Que tu es Mashka Ouziak, et tu es ta gosiak.
Oui, alors vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et nous parlons ce soir du Forum Social Mondial. Alors normalement au téléphone nous avons Clémence de la CIMAD, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors nous n'avons pas encore parlé de la charte des migrants qui était un des sujets importants de ce Forum Social Mondial. Oui. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus?
Oui, alors en fait la charte mondiale des migrants, elle a été promulguée en amont du Forum. Le 4 février sur l'île de Gorée, donc en face de Dakar. C'est une initiative qui vient des migrants eux-mêmes, qui n'est pas directement rattachée au Forum social, même si évidemment il a donné le coup d'envoi, on va dire, international pour la diffusion de cette charte. C'est un processus qui a démarré en 2006 et qui s'est traduit du coup par la tenue d'une Assemblée mondiale des migrants donc sur l'île de Gorée en amont du Forum social mondial et par la promulgation de cette charte qui est donc un document écrit par les migrants eux-mêmes. C'était important d'avoir un processus qui soit vraiment mis en place par les migrants et pas forcément par des associations de défense des droits, par des institutions. Donc là, on est vraiment dans un processus qui est mis en place par les gens eux-mêmes qui sont concernés par les problématiques de migration.
Et que dit cette charte?
Alors cette charte, elle appelle déjà au respect des conventions internationales en termes de droits des migrants, donc notamment la Convention internationale pour les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Elle appelle à une liberté de circulation, d'installation partout sur la planète. Elle appelle aussi à donc la protection des droits des personnes en migration, donc notamment la citoyenneté de résidence, donc que les personnes migrantes aient les mêmes droits que les citoyens du pays dans lequel ils vivent. Voilà, donc c'est tout un ensemble de droits qui doivent être respectés, qui aujourd'hui ne le sont pas, malheureusement, ou trop souvent ne le sont pas.
Et durant le Forum social mondial, cette charte, et j'imagine qu'il y avait on a parlé aussi des questions migratoires.
Oui, alors ça a été vraiment un gros enjeu au FSM de Dakar. Déjà parce que ça se situe à Dakar, donc l'Afrique de l'Ouest a quand même une problématique liée à la migration qui est importante, qui est d'actualité. Que
une migration interne au continent africain et une...
Migration interne qui sont les plus importantes, il faut quand même le rappeler, que les migrations internes sont traditionnelles, historiques, elles font partie de la culture, de l'économie même de la sous-région ouest africaine. C'est des migrations saisonnières, de travail, c'est des migrations familiales, voilà, qui ont toujours existé dans cette région-là. Et puis, c'est aussi une zone de départ, de transit aussi vers l'Union européenne. Donc la question des migrations était particulièrement centrale au forum, aussi parce qu'évidemment, avec la promulgation de la Charte mondiale des migrants, ça a donné une résonance particulière. Et il y a eu pendant la semaine énormément d'ateliers qui ont tourné autour des problématiques de migration, de libre circulation, notamment en Afrique de l'Ouest, puisqu'il faut rappeler que l'Afrique de l'Ouest, en fait, il y a un principe de libre circulation dans les pays de la CEDEAO, donc de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est une libre circulation sur le papier, mais ce n'est pas une libre circulation de fait. Ça l'est de moins en moins à cause des politiques européennes de contrôle des flux migratoires et d'externalisation de ces contrôles. Donc voilà, pendant les ateliers, il a été beaucoup discuté ces problèmes d'entrave à la libre circulation dans l'espace CEDEAO, d'externalisation des politiques européennes de contrôle des flux migratoires. Donc en fait, les pays de transit et les pays qui sont aux frontières de l'Europe, notamment la rive sud de la Méditerranée, deviennent les gardes-frontières de l'Union européenne. Donc ça a été beaucoup discuté. On a parlé aussi de l'aide publique au développement et de la façon dont elle est instrumentalisée à des fins de contrôle des flux migratoires, c'est-à-dire le financement de programmes qui sont basés sur des fonds qui doivent servir à de l'aide au développement, mais qui en fait vont servir à former des gardes-frontières ou à avoir des objectifs sécuritaires par rapport aux migrations. Voilà, donc il y a eu énormément d'ateliers qui ont tourné sur cette thématique.
Et ces ateliers ont débouché sur des projets. J'ai vu qu'il y avait le projet de journée internationale du droit des migrants.
Tout à fait. Donc en fait, à la fin de la semaine, on a tenu des assemblées de convergence, donc qui ont rassemblé un petit peu les conclusions, les propositions qui ont été faites tout au long de la semaine pendant ces ateliers. Et il y a eu trois ateliers sur la migration. Trois assemblées sur la migration. Une qui est effectivement pour la mise en place d'une journée internationale du droit des migrants et de l'antiracisme, qui serait le 18 décembre, qui est le jour de signature de la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants. Il y a eu une assemblée plus large sur la thématique de la libre circulation. Et il y a eu une assemblée qui réunissait le réseau Des Ponts Pas Des Murs, qui est un réseau principalement euro-africain, donc composé d'associations du Nord et du Sud, et qui se mobilise notamment pour tout ce qui est action commune en vue des conférences ministérielles sur migration et développement qui se tiennent régulièrement. Donc les ministres en fait des États européens et des États africains se réunissent pour définir ensemble plutôt les ministres européens imposent le diktat aux ministres africains sur la gestion des migrations.
Et cela, pour participer à ce genre d'action, on peut se renseigner où?
Alors, en fait, il y a plusieurs solutions. On va diffuser sur le site du Forum social mondial la conclusion de ces assemblées de convergence. Vous pouvez aussi contacter la CIMAD, puisqu'on a un service solidarité internationale qui est en lien évidemment avec tous ses partenaires associatifs. Et voilà, principalement deux voies de nous contacter là-dessus, parce qu'on est vraiment dans une dynamique d'ouverture. On n'est pas uniquement entre associations, on réfléchit avec les syndicats, on réfléchit avec les groupements de paysans, puisqu'en fait, toute cette problématique des migrations va être aussi rattachée à des questions comme l'accaparement des terres, comme le changement climatique. Donc c'est quelque chose de très transversal, et on essaye au maximum d'être en relation avec tous les acteurs qui sont à même de se mobiliser, y compris les élus locaux, les parlementaires. Donc le résultat de ces assemblées de convergence, comme leur nom l'indique, ça a été vraiment d'essayer de faire converger toutes les initiatives de tous les acteurs qui se mobilisent sur cette question.
Mais j'imagine aussi que vous serez peut-être actif au moment du G8 et du G20 qui aura lieu en France.
Voilà, donc pour le G8, pour l'instant, la thématique des migrations n'est pas encore vraiment à l'ordre du G8. C'est surtout au G8 que ça va se passer, moins au G20, parce que c'est moins le lieu pour... Donc oui, effectivement, on va continuer la mobilisation avec une première étape qui se trouve être le G8 puisqu'il est en France cette année.
Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations et puis bonne mobilisation. En tout cas, on vous suit.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière, la rue sous la pluie. Le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis, ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. Ce que j'oublierais si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
Thank you.
Oui, alors vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et nous discutons du Forum Social Mondial à Dakar. Mais évidemment, le Forum Social Mondial, c'est bien, c'est agréable, on discute de ce qui se passe sur le moment, mais il y a d'autres mobilisations à venir, d'autres mobilisations qui pourraient peut-être faire changer le point de vue des dirigeants, parce que on n'a pas encore pris le pouvoir totalement, en tout cas pas au niveau national et ni international. Donc cette année en France, il y a un G8 et il y a un G20, donc j'imagine que pour les haltères, il va y avoir du travail.
Il y a beaucoup de travail. Au terme du Forum Social Mondial, il y avait beaucoup d'assemblées de convergence qui dessinaient un peu les grandes lignes des mobilisations futures pour le mouvement altermondialiste. Donc il y a eu plusieurs trucs, il y a eu des choses marquantes du côté du mouvement pour la justice climatique avec l'année prochaine en décembre à Durban, la suite de Copenhague et la suite de Cancun et donc là, encore un grand moment de mobilisation pour tous ces mouvements-là qui sont hyper actifs, qui sont très très intéressants et qui arrivent vraiment à faire le lien entre justice climatique et justice sociale. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a aussi un peu plus loin, en mai 2012, les 20 ans de la conférence de Rio. Donc on appelle Rio plus 20, donc là aussi ça va être un grand moment. Je sais pas, j'ai pas encore exactement les détails de ce qu'ils veulent organiser là-bas, mais il y a des gens qui travaillent dessus. Donc l'idée, c'est en 92, on avait essayé à Rio de mettre l'homme au centre de tout, et donc là en 2012 on a mis l'homme au centre de tout, mais l'homme a un peu proposé des fausses solutions au changement climatique. Donc comment garder l'homme au centre de tout, mais remettre la nature aussi à sa place. Et donc ça, c'est une question qui anime beaucoup les mouvements sociaux en Amérique du Sud, notamment avec toute la mouvance du Buen Vivir et de Cochabamba. Mais bon, en ce qui nous concerne en France, c'est vrai que les mobilisations contre le G8 et le G20, donc G8 en fin mai et G20 début novembre, ça va accaparer, j'espère, beaucoup des forces militantes. Nous, on y travaille déjà. On a une coalition d'associations de solidarité internationale qui a été initiée par le CRID, ou les associations membres du CRID et ATTAC, qui maintenant réunit une cinquantaine d'organisations de la société civile et aussi des syndicats et aussi pas seulement français, je veux dire, mais aussi international. À Dakar, c'était l'occasion de lancer un appel international à la mobilisation, donc chose qu'on a faite. Donc le mouvement commence à prendre un peu de l'ampleur. C'est à nous de nous organiser maintenant en France. Donc on prévoit plusieurs choses. Je peux
bien sûr
exposer un peu le calendrier des festivités. Donc,
puis après, tu nous diras un peu les revendications, si précises.
Ouais. Sur le G8, donc, qui aura lieu à Deauville fin mai, on prévoit une manifestation et peut-être un petit sommet.
Un petit contre-sommet avec une petite radio militante voilà. Qui va s'amuser.
Mais donc, ce serait petit format, donc petite radio militante portative peut-être.
Oh, on en a fait des toutes petites. Hein.
D'accord. Donc ça, fin mai, aux alentours de Deauville. Donc après avoir... l'espace géographique qu'on arrive à
oui, parce qu'ils ont le chic
là-bas.
Pour faire les sommets des G8 dans les endroits les plus chics de France et les endroits les plus compliqués à s'infiltrer.
Là, cette année, ils nous ont particulièrement gâtés. Deauville, c'est un peu imprenable. Les grandes villes sont un peu loin. Et, voilà. Donc, quand Le Havre, si on fait un truc là-bas, il y a le pont. Donc
il faut occuper des golfs. Il faut occuper
Je pense qu'ils s'en occupent déjà du golf. Donc... Et donc j'ai 20 début novembre à Cannes, donc là aussi une ville pas facile.
Pour avoir fait des manifestations à Cannes, au moment c'était le conflit des intermittents, c'était pendant le festival de Cannes, c'était fortement compliqué de faire des manifestations à Cannes.
Donc en plus, le deuxième inconvénient de Cannes, c'est peut-être... le paysage politique local qui n'est pas forcément...
Et sa police municipale qui est très dynamique.
On parlait de Ouad tout à l'heure. Donc Ouad était peut-être contre le FSM, mais le maire de Dakar était plutôt favorable à la tenue du FSM. Là, pour le G20, je pense que à la fois les municipalités et le... Bref. Donc, on va se débrouiller, on va trouver un endroit, on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Après, sur les revendications, donc, voilà, c'est une coalition de plusieurs activités, de plusieurs organisations.
Finalement, au niveau, enfin, le G8 et le G20, en tout cas, Sarkozy, qui est donc le président cette année du G8 et du G20, est pour une certaine taxation des produits financiers, non ?
Ouais.
Il l'a dit, hein ?
Il est pour le fait que les acteurs, l'industrie financière participe à chercher des solutions à la crise. Voilà, donc ça peut passer par une taxe sur les banques, ça peut passer aussi par une taxe sur les transactions financières, sachant que il y a beaucoup d'études qui ont été faites par le FMI notamment, il y en a aussi de la Commission européenne. Il y a un groupe d'experts sur les financements innovants qui existe et qui a produit plusieurs rapports. Donc Sarkozy, au fur et à mesure de ses discours, parle... Là, il revient sur l'idée de la taxe sur les transactions financières, mais a parlé un peu plus des financements innovants. Donc voilà, il faut voir après ce qui mettra réellement en place. Nous, on le suit à la trace et on essaye de l'influencer sur ce champ-là, sachant qu'on a du mal à voir en quoi le président des riches pourrait mettre en place une taxe sur les transactions financières.
Alors là, tu nous dis ça, mais la semaine prochaine, on reçoit les pinsons Charlot.
Donc ça, c'est un des thèmes de sa présidence. Deuxième thème, c'est la volatilité des prix des matières premières agricoles. Et troisième thème, c'est le système monétaire international. Donc là, par exemple, le week-end dernier s'est tenu le premier G20 Finance qui était consacré à le déséquilibre commerciaux et qui, du coup, influence ou ont une incidence sur le système monétaire international, sur le yuan qui serait sous-dévalué par rapport au dollar, les excédents de la Chine par rapport aux États-Unis. Donc voilà, ils se sont mis d'accord sur une batterie je ne sais plus comment ils ont fait ça, mais encore une fois, pas une décision. Ça reste un G20. Un G20 est un organe de discussion entre les 20 puissances les plus riches de la planète, qui certes représente plus de monde qu'un G8 ne pouvait représenter, mais en aucun cas une instance légitime à qui on peut... confier un rôle de maître du monde.
Et donc, il y a des mobilisations qui vont avoir lieu à ce moment-là. Et c'est vous qui coordonnez ? Il y aura un village, un contre-sommet ?
Ben, là, on n'a pas été si loin. C'est vrai que dans l'idéal, ce serait d'essayer de créer quelque chose comme ce qu'il y avait eu en 2003 à Annemasse. Alors moi, j'y étais pas parce qu'à l'époque, je faisais d'autres choses. Mais voilà, d'après ce que j'en ai lu et d'après ce que j'en sais, parce que j'étais quand même pas très très loin, c'était une pluralité d'acteurs, une pluralité de modes d'action, et que tout s'était plutôt bien passé. Et il y avait eu à la fois des débats qui étaient intéressants, il y avait eu des manifestations qui ont...
Il y avait une pression sur le G8 qui fait qu'effectivement, il y a eu des actions directes qui ont fait retarder les réunions du G8 à Evian à l'époque. Et puis, il y avait eu, d'un point de vue médiatique en tout cas, puisqu'il y a énormément de politiques qui s'étaient déplacées dans les villages. Je me souviens, il y avait c'était le VAG, le VIG et le point G au milieu à l'époque. Et ça avait quand même créé une émulation intéressante, je pense.
Donc l'idée, ce serait, l'idéal serait de faire ça. Après, là, la coalition, c'est vraiment une coalition de syndicats, d'organisations de la solidarité internationale qui s'est créée. Je suis au courant, je sais que les groupes autonomes préparent aussi des choses. Alors je ne sais pas si les groupes autonomes veulent se positionner vraiment contre les G8 et les G20, ou alors, d'après ce que j'ai compris, peut-être... un truc qui soit plus déconnecté dans le temps et géographiquement des sommets. Voilà, je pense que ce serait bien qu'on prenne contact et qu'on se parle pour essayer de justement faire quelque chose qui soit pas...
Oui, de mobiliser au plus large possible. Ouais. Et alors vous, dans vos réseaux, vous allez continuer à militer et à suivre le G8 et le G20 après ce forum social mondial qui est une première pour les trois?
Ce serait intéressant d'y aller, bien sûr, et de diffuser le maximum d'informations autour de toutes les initiatives qui sont prises autour de ce G8 et de ce G20. Oui.
Il y a aussi une campagne qui s'est montée, là, justement, qui s'est lancée au forum social, c'était contre les paradis fiscaux. Donc il y avait une campagne française assez forte et maintenant c'est une campagne mondiale qui est articulée par le Tax Justice Network, le réseau pour la justice fiscale, et qui va prendre son envol là, notamment à l'occasion des sommets. Et alors Sarkozy, pareil, s'était fait le champion de la lutte contre les paradis fiscaux au point de dire que les paradis fiscaux c'était terminé. Il avait dit ça, les paradis fiscaux c'est fini. Donc bon, il se trouve qu'il y en a encore quelques-uns qui existent. Hein, et donc la revendication là, c'est non seulement de fermer les paradis fiscaux dans le sens où si les grands États interdisent les transactions entre leurs marchés financiers et les paradis fiscaux, ça asphyxie totalement ces marchés-là. Mais enfin ça, c'est assez irréaliste d'estimer que ça puisse advenir rapidement. Mais il y a une mesure très, très concrète et qui peut être adoptée, ce serait d'avoir une sorte de comptabilité pays par pays qui permettrait d'isoler, en fait, de montrer, de mettre en évidence l'utilisation des paradis fiscaux pour isoler les bénéfices. C'est ce que font souvent les multinationales. C'est-à-dire qu'elles placent tous leurs bénéfices dans une filiale qui est domiciliée dans un paradis fiscal, et ce qui fait qu'elles payent quasiment rien en impôts. Donc la demande, elle est là-dessus. D'autant plus qu'il y a eu un geste de la part des États-Unis qui était intéressant. C'était la loi sur la régulation financière en avril 2010 ou juin 2010. Qui mettait en place une partie de cette proposition pour l'industrie extractive. Et donc, quasiment toutes les industries qui sont dans ce cas-là doivent rendre des comptes pays par pays aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment une brèche importante dans l'impunité, dans l'opacité des transactions financières. Et l'idée, c'est d'agrandir cette brèche-là.
Donc, yes, we can. Je crois que c'est une des...
Voilà, c'est ça, c'est le slogan du G8. Ouais.
Ouais, c'est le slogan de la coalition qui s'est montée. Donc, c'est... Les peuples, pas la finance, yes we can, donc can, écrit comme la ville.
Et j'ai vu que vous faites aussi des brochures sur le G8 et le G20, où est-ce qu'on peut les avoir
Ça, sont disponibles par simple demande, soit auprès d'ATTAC ou auprès de l'ETEC. Il y en a trois qui sont prévus, là c'est le premier, donc c'est sur les engagements du G20 en matière de régulation financière, qui n'ont pas été respectés. Pourquoi ils n'ont pas respecté? Donc une petite partie sur le lobby de l'industrie financière et en même temps un petit retour sur les régulations qui ont eu lieu, en quoi elles sont peut-être quelquefois sur la bonne voie, notamment ce qui a eu lieu aux États-Unis qui est plutôt en avant sur ce que l'Union européenne a mis en place et sur nous, nos demandes en matière de régulation financière. Le premier est sorti à l'occasion du premier G20 Finance. On en prévoit trois à l'occasion des trois G20 Finance organisés par la France.
Et j'imagine que vous avez un petit site internet pour vous contacter.
Etec.reseau-ipam.org.
Alors Etec, c'est AITEC.
Voilà.
Je vous dis ça comme ça. Et ben, voilà, on fait un petit générique et on va sortir.